C'est à vous, cher Antoine.
Merci, Arnaud Laporte. Hollywood, raconte François Fouristier dans un article de l'Obs titré « Les dessous des Oscars ». Les grandes manœuvres ont commencé. Les producteurs Paramount, producteurs de The Big Short, la Fox, Seul sur Mars, Warner, Mad Max et Weinstein Company, les 8 salopards, inondent les 6000 électeurs. Tous les membres encartés de l'industrie du cinéma ont le droit de voter. De DVD entament les négociations dans les coulisses, font donner la cavalerie des agences de com. Le lobbying, c'est un art. Il faut solliciter, choyer, susciter, manipuler, car l'Oscar, c'est du prestige et de la pub gratuite. Un salaire d'acteur peut tripler en une soirée. Un film inconnu peut se transformer en blockbuster. Après tout, près d'un milliard de spectateurs dans le monde entier regardent la cérémonie des Oscars avec ses majorettes, ses annonceurs, ses numéros comiques et ses stars. En 20 ans, le prix du spot télévisé est passé de 500 000 dollars à près de 2 millions. On plaisante sur les Oscars avant la cérémonie. On ne plaisante pas pendant. It's big money. Cela n'a pas toujours été le cas, rappelle l'Obs. Avant de devenir un marathon de 5 heures vendu à prix d'or aux chaînes de télé, les Academy Awards of Merit, le nom officiel, furent un temps une arme anti-syndicale. Du moins, c'était l'intention de Louis B. Mayer, le boss de la MGM, qui inventa tout ce bazar. Énervé par l'apparition de gauchistes qui voulaient syndiquer les acteurs, puis les auteurs, puis les metteurs en scène, et pourquoi pas les électros et les machinaux, il rassembla les producteurs en 1927, et lors du premier banquet, il y avait du homard et du filet de sol, laissa parler Will Hayes, le censeur en chef, qui jura que les Oscars ne couronneraient jamais un film unclean, soit impur, c'est-à-dire immoral, c'est-à-dire encore donc politiquement incorrect. Moyennant quoi, les deux premiers acteurs oscarisés furent Emil Jannings, déclaré plus tard artiste d'État par Goebbels en 1941, et Janet Gaynor, qui était lesbienne. Quant à la statuette, elle fut sculptée par le décorateur Cédric Gibbons, d'après le corps de rêve d'Emilio Fernandez, acteur mexicain amoureux de la future épouse de Gibbons, Dolores Del Rio. Vu l'état d'excitation du modèle, dont la virgule s'était transformée en point d'exclamation lors du passage de la dame, le sculpteur préféra remplacer ce garde-à-vous par une arme. C'est la raison, assure François Fouristier, pour laquelle Oscar aujourd'hui a les mains posées sur une épée qui n'a rien à voir avec le cinéma, mais tout avec la virilité. Dernière étape sur le chemin de la gloire, c'était vendredi, l'annonce des finalistes, avec 12 nominations, The Revenant d'Alejandro Iñárritu est le candidat aux Oscars le plus cité, et c'est un exploit pour le cinéaste mexicain qui avait tout raflé l'an passé avec Birdman, commente Libération. Leonardo DiCaprio vient d'empocher le Golden Globe du meilleur acteur pour sa prestation furibarde de trappeur ivre de vengeance, et il peut donc espérer remporter enfin un Oscar, lui qui avait vu la statuette lui échapper pour la quatrième fois en 2014 avec Le Loup de Wall Street. Cette année, il pourrait trébucher sur le jeune Eddie Redmayne qui, dans The Danish Girl, incarne une artiste transgenre des années 30. George Miller et Mad Max Fury Road se taillent aussi une bonne part du gâteau avec 10 nominations. Moins chanceux, Todd Haynes est curieusement absent de la catégorie meilleur réalisateur et Carol n'est pas dans la liste pour le meilleur film. Une faute de goût pour Libération que ne rachète pas totalement la présence des deux actrices principales dans la liste des nommés, tout comme Charlotte Rampling pour 45 ans. Un manque flagrant de patriotisme, Libération ne relève pas, au contraire du Monde, que pour la première fois depuis Entre les Murs en 2009, le long métrage présenté par la France est nommé pour l'Oscar du film en langue étrangère. Mustang, réalisé en turc et en Turquie par Deniz Gamze Erguven, concourra pour ce trophée avec, entre autres, Le Fils de Saul de Laszlo Nemes pour la Hongrie. La France n'a pas remporté l'Oscar du meilleur film étranger depuis longtemps, constate dans Studio Ciné Live Charles Gilibert, le producteur de Mustang. La dernière fois, c'était pour Indochine en 1992. Après Saint-Laurent et Renoir, je trouve bien, dit-il, qu'on n'ait pas envoyé un film sur l'histoire de la baguette, mais le premier film d'une réalisatrice sur un sujet fort comme la condition féminine en Turquie. Le distributeur du film aux États-Unis, Cohen Media Group, est expérimenté, assure Olivier Bonnard, le correspondant de Studio à Hollywood. C'est lui qui, l'an dernier, a accompagné Timbuktu jusqu'à la finale pour l'Oscar du meilleur film étranger. Mais ce qui compte avant tout, ce sont les ambassadeurs de choc. Et là, ce sont des ambassadrices. Quand Lena Dunham, la créatrice de Girls, tweet que Mustang est l'un des films les plus puissants qu'elle ait jamais vu, elle touche quelques 3,26 millions d'abonnés. Mais c'est le fruit d'une stratégie réfléchie. À Cannes, j'ai montré le film à la présidente de l'association Women in Hollywood, à laquelle Lena est rattachée, raconte Gilibert. À ce moment-là, je choisis mon axe sur lequel on va travailler pendant toute la campagne. Et depuis peu, c'est un axe assez porteur, alors que les actrices de Jennifer Lawrence à Emma Watson, en passant par Sandra Bullock, n'en finissent plus de dénoncer le machisme d'Hollywood, les membres de l'Académie pourraient avoir envie de voter Mustang pour se racheter une conduite, un vote d'expiation en quelque sorte. On peut s'attendre également à ce que les membres de l'Académie prennent en compte les attentats du 13 novembre à Paris qui ont suscité une vive émotion aux États-Unis et votent contre l'obscurantisme pour un film qui célèbre la liberté, la vie et la beauté d'un corps de femme. Tout cela suffira-t-il ? Réponse le dimanche 28 février pour savoir si les filles de Mustang mettront la main sur le très viril Oscar.